Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, version week-end, d'autant plus ravi que ces derniers jours ont été quelque peu bouleversés, voire bouleversants la semaine dernière avec Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Nous vous avions monté, nous vous avions préparé une émission autour de James Bond à l'occasion de la sortie du dernier opus de 007, Le Spectre. Vu les événements tragiques qui ont secoué Paris, elle n'a finalement pas été diffusée. Nous vous proposons donc aujourd'hui de retrouver l'univers et le style de James Bond avec Jérôme Philippon, président de la maison de champagne Bollinger, Stéphane Urquhart, président de l'horloger Omega, et Pierre-Olivier Marie, journaliste spécialiste auto à l'Optimum. Mais tout de suite, c'est la tradition dans Good Luxe, on commence par les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Emmanuel, on commence les nouveautés de la semaine traditionnellement avec la table de la semaine.
Oui, et il faut jamais dire jamais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais tenu, j'avais pêché le meilleur bistrot de l'automne, de la saison. Le
Salt. Vous avez trouvé encore mieux.
Le 11e. Alors, le Salt, c'était un penchant plutôt anglo-saxon. Vous savez que la filière anglo-saxonne marche très fort en ce moment. Mais allez, il y en a un deuxième meilleur de la saison. Alors là, il faut aller le pêcher du côté du 19e arrondissement. On peut pas dire que le 19e et la gastronomie fassent bon ménage. Là, on est pas loin des Buttes-Chaumont, pas loin de Belleville. Et on y retrouve un certain Thibaut Sombardier. Thibaut Sombardier, c'est un des jeunes premiers de la casserole parisienne. On l'a vu à la télé du côté de Top Chef. Il dirige les cuisines du restaurant Antoine dans le 16e, une étoile Michelin. Et là, il est allé ouvrir son bistrot. Et c'est un vrai bistrot, tout ce qu'on aime. On recolle véritablement à la bistronomie. C'est-à-dire, vous savez, la bistronomie, ces derniers temps, elle pète un peu plus haut que sa toque. Les prix deviennent hallucinants. On n'est plus dans la bistrotte. Ici, des prix très justes, avec des menus à 18-20 euros. Et puis surtout, j'ai envie de dire, alors, le lieu, c'est vraiment la rencontre du café de campagne et du bistrot Parigot. Donc très réussi, très bon enfant, très bon esprit. Et puis la cuisine, quand on parle de cuisine de saison, souvent c'est un terme valise. Ici pas du tout, on a vraiment l'impression de bouffer de l'automne. Allez, ça va être une poulette travaillée avec donc une petite poule travaillée en sauce poulette au vin jaune et avec des vrais légumes de saison. Et puis des légumes un peu étuvés, pas simplement dans la croque. Ça va être les cèpes travaillés en pâté. Ça va être une néo-tatin. Ce que j'appelle une néo-tatin, c'est-à-dire la tarte tatin, mais réinventée. D'abord dans la coupe, c'est une manière de compression. Donc cette pomme, quasiment qu'on cueille du verger. Et à la place de la crème fraîche habituelle, eh bien une petite glace au lait ribot, vous savez, ou lait fermenté. C'est très réussi. Juste prix, juste lieu, juste mesure.
Le Mensae,
Thibaut Sombardier en pleine forme du côté de Belleville.
Côté de Belleville. Et donc c'est le meilleur bistrot de la saison pour cette semaine. On verra la semaine prochaine.
On va pas se plaindre.
Allez, des nouvelles boutiques pour vous, messieurs. En tout cas, des nouvelles propositions. Dior homme d'abord. Figurez-vous qu'il n'y avait pas encore de vraies propositions Dior uniquement pour les hommes à Paris. Donc ça y est, on les a exfiltrés de l'avenue Montaigne, de la boutique de l'avenue Montaigne. Rendez-vous 24 rue François 1er. Désormais,
il y en a partout. À côté, hein.
Bien sûr, il y en a partout des boutiques spécifiques pour les hommes Dior dans le monde, mais il n'y en avait pas encore à Paris. Donc voilà, ça arrive. Deux niveaux, rez-de-chaussée, accessoires et souliers. Premier étage, prêt-à-porter et commande spéciale. Bien sûr, service de rendez-vous à domicile et demi-mesure. Et on attend ce que va devenir Dior après Raf Simons, juste pour le rappel, qui est parti. Et autre proposition pour vous, messieurs, ça se passe sur Internet, c'est My Sueli. Donc c'est une marque fondée en 2009 par Adélaïde Salvi et Géraldine Cohen autour de la maroquinerie. Et donc là, tout ce qui fait l'univers de l'homme, chaussures, sacs, porte-documents, sacs 48 heures, trousse de toilette, bien sûr, à l'honneur, cuir tressé, nubuck et serpent d'eau. Il y a une ligne de chapeau aussi. Et alors les prix, là, ça varie, hein, 78 à 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros. Pour l'instant, c'est exclusivement vendu sur l'e-shop My Sueli, mais c'est en attendant la boutique qui devrait arriver très prochainement. Et justement, puisqu'on parle d'Internet, allons voir ce qui s'y trame, c'est Web de Luxe.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy,
bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien.
Alors, sur le web cette semaine,
pas mal de choses sur le web. D'abord, un coup d'œil sur une plateforme qui vient tout juste d'ouvrir, qui recense des objets de design rares, alors soit créés par des jeunes designers ou bien fabriqués dans des entreprises de renom. Ça s'appelle tout simplement store.wallpaper.com et ça dépend du magazine Wallpaper. En fait, c'est l'espace de vente en direct de ce magazine qui fête ce mois-ci sa 200e édition, qui nous ouvre les portes de l'architecture, du design. design, du lifestyle. Et donc, bah voilà, cette vidéo à découvrir, le site.
C'est le Wallpaper Magazine, voilà. Version e-shop, en tout cas sur Internet.
C'est ça.
Zélip.co.
Alors là, c'est si vous avez des envies de meubles sur mesure, si vous avez envie de vous faire créer une verrière, de rénover un fauteuil, eh bien vous faites appel à Zélip.co. En fait, vous allez recevoir gratuitement en une semaine sur votre mail un devis d'un artisan qui est spécialiste, professionnel, qui est intéressé pour participer à votre projet. Et voilà. Et en fait, donc si vous voulez, l'avantage c'est que ces artisans sont très très divers. On recense sur le site à peu près 200 artisans qualifiés, donc il y a des ébénistes, des tapissiers, des ferronniers, verriers, peintres en décor et que sais-je. Ils travaillent pour des professionnels aussi, qui ont besoin d'élargir un petit peu leur zone de compétence, mais aussi pour des particuliers, donc ça permet vraiment d'avoir accès à ces artisans d'art.
Artisans d'art, hein. On n'est pas chez le roi Merlin. J'ai rien contre le roi Merlin, mais je le rappelle. Hein, parce que le principe existe déjà, là c'est vraiment de la pointure.
Donc voilà, on est équipé pour la maison grâce à vous, Sandy, déco, design. Un petit bijou.
Alors on est effectivement là encore dans les beaux objets. C'est un site qui s'appelle Diamantique avec un S.com. On peut vendre ou acheter des bijoux d'occasion. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des experts qui vont authentifier les signatures de ces bijoux, qui vont regarder un petit peu plus en détail les matières, enfin voilà, tout ce qui fait le bijou, savoir si c'est vraiment un bijou d'exception ou non. On peut trouver de tout, évidemment tout ce qui est boucle d'oreille, collier et que sais-je, mais aussi des petites boîtes en argent, des stylos Cartier. On peut faire de jolies trouvailles sur ce site. Ça s'appelle Diamantique.com.
Et ce qui est important, c'est que ce sont des experts, on se fait expertiser tout ça, bien sûr, pour ces ventes.
Il y a des déceptions dans certaines familles.
C'est possible. On n'est pas obligé d'acheter, on peut faire simplement expertiser grâce à Diamantique.
Après, les crises familiales, comment ça, c'est un faux.
Dernière chose pour notre bien-être, Sandy.
Oui, parce que je me suis dit qu'il ne suffisait pas d'avoir le bijou, il fallait être en forme pour porter un joli bijou. Alors là, c'est un site et une application qui s'appelle Vaniday. Vaniday, en quelques clics, eh bien, on réserve un moment dans un institut de beauté. On a absolument de tout pour les femmes, les massages, tout ce qu'on veut. Et puis pour les hommes, même les barbiers, enfin voilà, on a vraiment une large gamme de salons où aller, et ça fonctionne sur un système d'offres, tout simplement. On n'a plus qu'à réserver son horaire, à se rendre sur place, à payer soit en ligne, soit directement à l'institut. C'est pas mal fichu.
Bah merci beaucoup, ça s'appelle Vaniday.
Avec petite bouteille cette semaine.
Cette semaine. Merci infiniment, Sandy.
Merci à vous.
À bientôt. Allez, on continue. Une petite gourmandise, Emmanuel.
J'en reviens pas, moi qui n'ai pas un bec sucré, je deviens un peu un genre. Alors, une monomaniaquerie, vous savez que désormais la pâtisserie ne s'exprime en termes de boutique qu'à travers.
Pas encore un chou, pas un éclair.
Ben non, justement, c'est intéressant. Pour une fois, des petits malins qui ne nous ont pas répliqué l'éclair, le chou, etc., mais qui ont travaillé autour de la Chantilly. Ça s'appelle la Maison de la Chantilly. C'est installé du côté de la rue Claire, dans le 7e arrondissement, numéro 47. Et l'idée, c'est de décliner la Chantilly. Alors, la Chantilly, on rappelle, créée à Chantilly, lors d'une fête donnée à l'honneur de Louis XIV, on dit par le grand chef Vatel, c'est de la crème épaisse battue avec du sucre qui doit avoir à la fois de la légèreté et de la fermeté.
Mais qu'est-ce qu'on vend du coup dans la maison de la Chantilly?
Alors, on continue de travailler la Chantilly comme ce papier buvard de la gourmandise. C'est-à-dire, il va y avoir des Chantilly cappuccino, Chantilly au café, Chantilly en chou, tout ce que vous voulez. Mais aussi, ils vont pour une fois la travailler en soie. Et c'est vrai que la Chantilly, elle a toujours besoin d'être accompagnée. Et en vérité, ce qu'on aime parfois, c'est aller bêcher ce
froufrou. Pour la Chantilly.
Et ici, ils ont créé le cornet à Chantilly. Elle est tellement réussie, leur Chantilly, qu'ils ont créé un petit cornet et vous allez laper viralement. Et ce petit nuage de félicité. Surtout, il a travaillé avec un lait travaillé. C'est vrai qu'une bonne chantilly, c'est d'abord un lait. Ici, c'est un vrai lait avec minimum 35% de matière grasse. C'est ce qui va faire la qualité. Et ensuite, ils l'ont légèrement désucré. Parce qu'une bonne chantilly, il ne faut pas que ça soit putassier. Il ne faut pas que ça soit trop monté en sucre. Il ne faut pas que non plus ça soit veule, c'est-à-dire sans sucre. Ici, on est dans le juste équilibre. Très, très belle réussite.
47 rue Claire dans le 7e arrondissement pour son petit cornet de chantilly. Allez, je termine rapidement par l'objet de la semaine. Alors, je ne l'ai pas amené l'objet de la semaine et pourtant, j'aurais bien aimé puisqu'il s'agit d'un bijou Christophe, deux bijoux Christophe en fait.
N'arrête pas en bijouterie désormais.
Et mais oui, mais évidemment, depuis 2005, ils se sont lancés dans la bijouterie, cette belle maison d'orfèvrerie. Mais surtout, désormais, la bijouterie Christophe a sa propre boutique à Paris. C'est 56 rue Dufour, dans le 6e arrondissement, décoré par l'architecte d'intérieur Stéphane Parmentier. Et savez-vous que du coup, il y a quand même 20 collections de bijoux, et notamment l'anneau 925, c'est l'icône des collections Christophe, qui a été revisité par le studio Putman. En plus, maintenant, il y a des petits diamants, parce qu'ils montent en gamme, en plus, à chaque fois. Il y a une bague en rose et diamants blancs. Bref, de quoi faire de jolis cadeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Les fêtes arrivent
bientôt. Nous ne sommes pas mariés.
Allez donc dans la nouvelle...
Ça à qui de droit?
Je ne pense pas à moi, je pense à vous.
Ah bah en plus, c'est bien alors.
Dans la nouvelle boutique Rivauche, 56 rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris, pour découvrir toute la palette de bijoux Christophe. Oui, je sais, vous, c'est plutôt les belles bagnoles... Les belles bouteilles,
on oui, ça veut là. Dire. Les belles belles aussi.
Les belles belles aussi, genre James Bond Girl. Allez, on y va.
C'est 007. Parti.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Goodlux dans les pas de James Bond cette semaine avec de quoi vous offrir la panoplie totale de 007. Écoutez plutôt, nous sommes en compagnie de Jérôme Philippon, président de la maison de champagne Bollinger. Bonjour. En compagnie de Stéphane Urklar, bonjour, président de la maison horlogère Omega. Et de Pierre-Olivier Marie, journaliste spécialiste auto à l'optimum. Il a testé et cassé toutes les voitures, toutes les Aston Martin du dernier spectre de 007. Et oui, vous savez, le dernier opus vient de sortir. Alors nous sommes allés lever un peu le voile et regarder avec ces marques. On va commencer par vous, quand même, Bollinger, Jérôme Philippon. Depuis combien de temps vous êtes à coquiner avec James Bond? En fait, 1973,
oui.
Ça c'est une première apparition. Vous n'êtes pas encore vraiment à coquiner.
Oui, en fait, il y a trois dates importantes, probablement. 73, avec Vivre et laisser mourir, où le champagne Bollinger apparaît dans le film.
Mais là, vous y êtes étranger.
Mais là, nous n'y sommes pour rien.
Okay.
Mais une autre date que j'aime souligner, c'est la date de 1956, parce que Ian Fleming, qui écrit les romans de James Bond, en 56, dans Les Diamants sont éternels, fait consommer à James Bond du champagne Bollinger. Donc l'origine, certes, Bollinger apparaît dans le film en 73, de manière plus formelle en 79 avec Moonraker, mais l'origine de la relation remonte à 56, c'est bien avant qu'il y ait les premiers films de James Bond.
Et alors, quand vous dites de façon plus formelle, c'est parce qu'à partir d'un moment, il y a une rencontre qui va changer un petit peu
assez,
le cours des choses.
C'est curieux parce que, et je pense que c'est le plaisir qu'on a de se retrouver à côté d'Aston Martin et d'Omega, parce que des histoires assez similaires à mon avis, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre. On pense James Bond, Mega Production, en réalité, il y a une famille derrière, la famille Broccoli. Et en 78, donc vous avez dit 73, on est dans Vivre et laisser mourir. En 78, Monsieur Kobe Broccoli vient en Champagne, souhaite rencontrer Bollinger pour nous proposer d'être le champagne de James Bond. Initialement, on lui refuse, c'est quand même assez incroyable. La première demande de rendez-vous est refusée. Finalement, il insiste parce que c'est un homme très charismatique. Il est reçu par le président de Bollinger, Christian Bizot, à l'époque. Il sympathise. Il y a un accord qui se noue, mais c'est un accord, un handshake agreement.
On
tape dans la main. Et donc, Bollinger autorise, parce que c'est comme ça que ça se passe, les producteurs de James Bond à mettre Bollinger dans tous les films. Et depuis, nous sommes le champagne exclusif. Ça se formalise en 79 avec Moonraker, premier film. Et depuis 14 films, Bollinger est le champagne de James Bond. Non, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est assez curieux à raconter.
Remarque qu'il n'y ait pas de contrat.
Alors,
l'une des rares, j'ai pas dit la seule.
Oui, on n'est pas la seule, mais il est certain que, et c'est pour ça qu'on est, encore une fois, je suis très content qu'on soit à côté d'Omega ou d'Aston Martin, parce que quand vous parlez avec la famille Broccoli, ils aiment citer, je pense, ces trois marques comme ayant un statut particulier.
Alors, juste une petite précision, Pierre-Olivier Marie représente en partie Aston Martin, mais il est journaliste auto, mais c'est bien, aujourd'hui, vous êtes Aston Martin. Hein,
Pierre-Olivier Marie,
vous allez
choses,
parler automobile tout à l'heure. Et alors, vos bouteilles, Bollinger, juste pour finir avec cette histoire-là, aujourd'hui, vous savez quelle bouteille sera utilisée? Vous savez quel millésime, mais vous ne savez pas quand, comment? Il y a quand même une idée là-dessus?
Oui, je dois dire, il y a une grande liberté qui nous est donnée sur le choix de la cuvée à mettre en avant dans James Bond.
Ah, c'est quand même vous qui décidez de la cuvée?
On décide de la cuvée, mais tout simplement, vous savez, Bollinger, la façon dont on développe ce partenariat depuis 40 ans est vraiment sur le haut de gamme et le luxe. Donc la cuvée qu'on va proposer pour un James Bond est une cuvée haut de gamme.
Forcément.
Dans le cas de Spectre, c'est Bollinger RD dans un millésime 2002, c'est un très très grand champagne.
Mais là je me permets, alors pour les amateurs, parce qu'il y a vraiment, on pourrait faire je crois, une verticale de Bollinger autour de James Bond. Je trouve que alors c'est un petit document que nous on reçoit les journalistes.
Vous dévalez tout
C'est pas grave, on le reçoit. Attends, et je trouve que Bollinger a raconté son partenariat avec James Bond à travers chacune des bouteilles et chacune des cuvées qui accompagnaient chaque film. Et je peux vous dire que pour les les amateurs. Alors tout commence en 73, vivre et laisser mourir, mais bon. 79, Moonraker, attention, Bollinger RD 69. Ça continue, 83, Bollinger RD, on n'en sait pas plus. RD 75, ça c'est la bouteille qui accompagne dangereusement votre. RD 75, toujours pour tuer Pajot en 87, 89, la RD 79. Vous voyez, la grande année 89, c'est demain ne meurt jamais. On pourrait faire, vous pourriez organiser une verticale absolument exceptionnelle, puisque là on a à la fois des bons films, parfois des très bons films, d'autres un peu moins, mais toujours des bouteilles d'exception.
Et nous avons fait d'ailleurs une verticale avec Barbara Broccoli et Michael Wilson. Quand ils sont venus à Paris il y a 3 ans, j'ai eu le plaisir de les recevoir. Et on a fait une très très belle verticale. On a fait ça d'ailleurs au Jules Verne, à la Tour Eiffel.
Puisqu'il y avait eu un rôle dans l'année.
Exactement, donc c'était normal de le faire là. C'était un moment très très sympathique.
On rappelle juste que, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que tout ceci est à consommer avec modération.
Je trouve que notre ami Daniel Craig, lui, consomme de moins en moins avec modération à chacun des films. Bon.
Stéphane Urquhart, président d'Omega depuis 99.
Merci d'être là d'abord.
Oui,
merci très rare.
Infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Vous êtes presque un petit jeune à côté de Bollinger chez James Bond.
C'est vrai. Donc ça a commencé avec GoldenEye en 1995. Bon, l'histoire quand même est assez drôle parce que au début des années 90, une dame, Lindy Henning, était appelée à revoir un petit peu l'image de Bond, qui est un petit peu ternie dans les fins des années 80, un petit peu. Elle m'a raconté elle-même cette histoire. Puis au fond, c'est elle qui est venue vers nous. On n'avait pas du tout l'intention de se demander est-ce qu'on peut être avec Bond. Parce qu'elle a fait des recherches, elle a dit que James Bond étant début des années 50, il était Commander of the Royal Navy, donc si vous mettez, il était de la marine britannique. À l'époque, parce que tous les membres de la marine britannique portaient une Omega Seamaster. C'était un must. Et deuxième chose qu'elle avait cherché, c'est elle pensait que la couleur bleue représentait bien James Bond. D'abord, son background, éduqué à Eton, un peu la famille royale.
Il a les yeux bleus,
absolument. Donc, elle avait proposé cette montre Seamaster Diver bleu en 95, qui au fond a fait les premiers 5 films, 4 films et demi, disons, avec Pierce Brosnan. Et quand Daniel Craig s'est venu à bord, Daniel Craig qui adore les montres, qui a beaucoup de...
C'est un vrai collectionneur,
il connaît très bien les montres.
Il connaît bien surtout, oui.
Il connaît bien. Eh bien, lui, il a voulu plutôt garder, donc, Seamaster, on a fait la Planet Ocean, qui est une montre un peu plus sportive. Et là, la montre que je porte, qui est celle dans le Spectre, c'est beaucoup lui qui a initié la décision de prendre celui-ci, qui est une montre de 1957. Et j'ai donné, moi, personnellement, à Daniel Craig, une montre de la date de sa naissance, 68, qui est la même montre, on ne verra pas de différence, elle a 1 mm de moi, c'est tout. Et donc, il est très, très, très... chaud et puis fasciné par l'horlogerie.
Et chez vous, il y a un contrat entre Moguet et James Bond? Non plus.
Comme avec Bollinger, donc c'est la famille.
Parce qu'on vient les chercher, eux, ils ont de la chance.
Non,
tous ceux qu'on ne vient pas chercher, ils sont plus ou moins bien traités. Tous ceux qu'on ne cherche pas, ils ont le droit à vraiment le tapis rouge.
Placement de produit, déjà, pour Bond, ça colle pas. Ça colle pas. Parce que ça, on a fait déjà quelques films à l'époque, 2-3 fois. Le seul autre film avec lequel on a fait un placement de produit, c'était, parce que c'était obligatoire, c'était Apollo 13, parce que Omega était, comme vous le savez, sous la Lune.
Elle a joué un rôle
dans le retour d'Apollo 13 sous la Terre.
Capital.
Donc il est obligé d'être dans le film. Mais on n'a jamais vraiment fait ça. James Bond, c'est tout autre chose. Hein. C'est au-delà d'une placement
franche. Ouais.
Mais alors, justement, là, vous parliez comment, dans le film Apollo 13, la montre joue un rôle, puisqu'historiquement, elle a joué un rôle capital dans le sauvetage de cette mission.
Absolument.
Mais, dans le même temps, alors je ne vais pas spoiler du tout le dernier Spectre.
Ne dites pas la fin.
Bon, d'abord, il y a certaines personnes qui l'ont déjà vu.
Oui.
Mais, il n'y a pas de contrat. Vous discutez avec Daniel Craig, avec Broccoli et toute la bande.
Et Sam Mendes.
Très bon réalisateur qui a réalisé un très grand Spider-Man qui sait comme ça réinventer les personnages mythologiques. Simplement, une fois que vous êtes mis d'accord sur la montre que portera Daniel Craig dans le prochain opus, est-ce que vous êtes au courant du synopsis ou pas?
Absolument pas.
Alors, vous avez dû être charmé lorsque vous avez découvert Spectre.
On était charmé. Disons, on a quelques idées, quelques souhaits qu'on essaie de mettre un peu discrètement là-dedans. Mais c'était pas du tout ce qu'on a, on n'a pas du tout demandé ça. Surtout quand au début du film, on lui donne la montre et on fait cette.
Ironique.
Et après, vers la fin où la montre joue un rôle.
Elle joue un rôle. Vers la fin d'ailleurs, c'est pas toute la fin.
Absolument.
Mais question que je pose. aux deux patrons là, de Bollinger et de Omega. Vous l'avez dit, finalement, on parle souvent de placement produit pour James Bond. Là où en fait, on est au-delà du placement produit.
Absolument.
Dans beaucoup de films, on cherche à placer le produit, ça ne fonctionne généralement pas très bien, ni pour les marques, ni pour le film, ça se voit. Ici, alors qu'on a tendance à dire, Ian Fleming, la famille Broccoli a inventé le placement produit, et pourtant, on est au-delà du placement produit, puisque on va le voir avec Pierre-Olivier Marie sur l'automobile. Il y a une géographie de James Bond, Londres, Jamaïque, tous les pays ont parfois une incidence sur le film et sur le scénario, et justement aussi la bouteille de champagne, Bollinger, la voiture. Aston Martin, la montre Omega, on est au-delà du placement produit, c'est absolument presque des personnages. Absolument. Il ne peut plus se défaire, ce que je disais, on lui coupe un bras autrement. Comment vous expliquez ce personnage-là,
Jérôme Philippon?
C'est Ian Fleming qui a tout de suite installé des codes d'une modernité exemplaire.
Oui, et puis je crois qu'il y a une, il y a vraiment, en tous les cas, en ce qui concerne Bollinger, il y a, c'est une association très naturelle, parce qu'on a parlé d'Ian Fleming, mais pourquoi est-ce que Bollinger est aussi dans le livre de Ian Fleming? C'est même plus ancien, parce que Bollinger est une marque très britannique. C'est le,
notre premier marché. Fournisseur de la couronne, hein.
Voilà, on est fournisseur de la famille royale depuis 1884, oui, depuis la reine Victoria, et de ceci de manière ininterrompue. Donc, si Ian Fleming écrit et parle de Bollinger dans ses romans, si on est aussi le champagne James Bond avec des très belles cuvées, c'est parce que c'est une association qui est naturelle. On n'a pas décidé, tiens, on va mettre une marque de champagne, qu'est-ce qui est prêt, quel est le plus offrant. Mmh. Non, on est sur une relation qui est vraiment dans l'ADN. Vous parlez de couper un bras, mais c'est ça. James Bond est britannique. Il est au service de Sa Majesté et Sa Majesté soutient et boit du Bollinger. Voilà la réalité et c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que cette relation dure.
Et d'ailleurs, en creux, chacun de vous deux venez un petit peu de dévoiler la biographie de James Bond. Il est effectivement sujet de Sa Majesté, élevé dans les codes de la monarchie britannique, donc il boit du Bollinger parce que c'est le champagne de la cour britannique et vous l'avez dit, c'est un officier de la marine. Donc, ils sont tous équipés de la Seamaster, donc ils portent une Seamaster. Donc, en creux, ces marques-là racontent un personnage. Absolument. Et aussi ce qu'on veut raconter dans cette émission.
Et alors justement, la Aston Martin DB10, en tout cas la Aston Martin, parce que c'est celle qui est mise à l'honneur, et l'automobile de James Bond, là aussi c'est presque, j'allais dire, le troisième bras, il n'y a pas trois bras, mais de 007, c'est la continuité du personnage, l'automobile.
Oui, surtout dans ce film-là, puisque la DB10 a été construite spécifiquement pour Spectre. Il y a eu 10 voitures produites, 8 qui ont servi lors du tournage, qui ont été passablement abîmées. Et il en reste deux. Donc
c'est ça, il y en a 6 de détruites. Pour
8 de détruites. Oui. Il en reste deux pour la tournée promotionnelle à travers le monde. Et une qui sera vendue aux enchères l'an prochain.
Et là aussi, Aston Martin accepte de jouer le jeu. Il n'y a pas le contrat. Il n'y a pas de contrat. Écoutez,
officiellement, il n'y a pas de contrat. Et j'en avais parlé avec le docteur Bez, qui était l'ancien patron d'Aston il y a quelques années. Il m'avait dit non, on n'a pas de contrat. Quant à nos participations, eh bien, on veille à ce que nos voitures aient un rôle dans l'histoire. Si c'est juste pour le transporter d'un point A à un point B, ça ne nous intéresse pas. Donc on le laisse conduire d'autres voitures. Par contre, nous, on veut être là et que nos voitures soient importantes.
Mais alors pareil, pourquoi, est-ce que c'est Ian Fleming, est-ce que ça va être reconnu, mais on sait que c'est Ian Fleming, pourquoi l'Aston Martin? Parce qu'il aurait pu choisir. D'ailleurs, historiquement, c'est pas l'Aston Martin.
C'est pas l'Aston, c'est une BNP.
Les grands noms de l'automobile anglaise, il y a Aston, mais aussi, je crois, Rolls, et puis aussi certaines marques qui s'appellent Bentley. Pourquoi on est passé de Bentley, puisque historiquement, c'est une Bentley.
Oui, c'est ça, il est commencé en Bentley. Dans le premier film, il conduit aussi une Sunbeam Alpine, qui était la seule voiture disponible à la Jamaïque, là où il y avait le tournage. Ils se sont dit, tiens, il nous faut une voiture de sport, tiens, bon, on va prendre ça, voilà. Donc, c'est arrivé un petit peu par hasard. Voilà. Et la voiture leur plaisait. Ils avaient fait une demande à Aston Martin pour Goldfinger, qui au départ s'est fait tirer l'oreille. Enfin bon. Et puis finalement, le partenariat s'est mis en place. Mais en 24 films, les Aston n'apparaissent que 12 fois sur les 24 films. Donc il y a eu d'autres marques qui ont essayé de se placer, comme BMW dans les années 90.
Ça avait fait toute une histoire à l'époque. Voilà. Quand BMW avait remporté, entre guillemets, le contrat et qu'on ne voyait plus Aston, on a dit c'est plus James Bond. Il y avait une mini polémique.
Ça n'a pas très bien pris. Hein. Les amateurs n'aimaient pas voir de BMW.
Non. Mais bon. On va y revenir.
J'ai revu Goldfinger l'autre jour dans l'avion. Et c'est quand même incroyable de voir à l'époque le rôle que jouait Aston Martin là-dedans. Donc, par exemple, c'était...
C'était le premier film.
De James Bond, forcément. Je voulais juste signaler, on en reparlera, mais bien sûr, l'Optimum actuellement en kiosque spécial James Bond, où on retrouve effectivement vos papiers également, Pierre-Olivier Marie, et ces fameuses cascades. Mais vous allez nous raconter ça juste après. On fait une petite pause sur BFM Business. On se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et quand 007 s'offre un 24e opus, Goodlux offre tous les attributs du style James Bond. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Philippon, président de la maison de champagne Bollinger, de Stéphane Urquhart, président de l'horloger Omega, et de Pierre-Olivier Marie, spécialiste auto-journaliste à l'Optimum. Alors bien sûr, ce 24e opus Spectre, donc qui vient de sortir, c'est Daniel Craig qui l'incarne. Et on en parlait tout à l'heure, toute l'histoire des relations entre James Bond, Aston Martin, James Bond, Omega, James Bond, Bollinger, ça s'est fait par Ian Fleming, ça s'est fait par les réalisateurs, ça s'est fait par la famille Broccoli, mais aussi Daniel Craig. Daniel Craig, il a vraiment un rôle à jouer, et peut-être que vous ne seriez moins là aujourd'hui, ou peut-être pas là même, si Daniel Craig n'était pas investi comme ça auprès de ces marques que vous représentez.
Alors, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, Daniel Craig aime le champagne, et aime le champagne Bollinger. Alors ça, ça a été pour nous une grande joie. Et c'est vrai qu'on a développé une relation personnelle avec Daniel Craig. À titre personnel, il achète du champagne Bollinger quand il est en vacances. Il en prend, et ça, c'est, ça nous a rapporté régulièrement par nos cavistes.
Est-ce que c'est vrai qu'il en a offert des bouteilles à la fin du tournage?
Exactement. Donc, c'est officiellement son dernier film. Il avait un contrat de quatre films. C'est le dernier. Et au mois de janvier de cette année, il m'a envoyé un mail en nous disant « Voilà, je voudrais faire un cadeau en secret à toute l'équipe de tournage et je voudrais leur offrir une bouteille de champagne Bollinger. » C'est quand même sympa, on ne lui avait rien demandé du tout. Mais il m'a dit « Je voudrais avoir une petite étiquette spéciale. Est-ce que vous pouvez faire ce cadeau personnalisé que je souhaite faire à l'ensemble du tournage ?» L'ensemble du tournage, il ne s'agit pas de 40 personnes.
Non,
on parle de 700 bouteilles.
Production, ouais.
700 bouteilles. Évidemment, on a accédé à sa demande avec beaucoup de plaisir et nous lui avons réalisé 700 bouteilles avec une collerette spéciale. Et je crois qu'il a dédicacé les 700 bouteilles de champagne Bollinger à chacun et chacune des personnes qui ont participé.
J'aurais dû être accessoiriste.
Mais c'est une relation.
Hein, j'aurais dû être accessoiriste.
Voilà. C'est une relation qui, même avec l'acteur, ça va au-delà. On en parlait tout à l'heure, cette relation entre Bond, Bollinger, très ancienne, et même qu'on arrive à réaliser avec les propriétaires de James Bond, la famille Broccoli, et aussi avec les acteurs.
Et c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, Stéphane Urquhart, aussi avec ce collectionneur et ce connaisseur qu'est Daniel Craig. Du coup, est-ce que vous appréhendez le nouveau James Bond là?
Oui, c'est clair que bon, si quelqu'un viendra à bord qui n'est pas intéressé par les montres, ça sera un peu plus difficile. Daniel était, Pierce Brosnan n'était pas tellement intéressé par les montres, donc il s'est bien donc fait partie du jeu avec nous. Daniel est venu à bord, il avait ses idées bien précises, et c'est clair qu'il faudra voir qui va être choisi. Mais je pense que comme disait M. Philippin, le personnage de James Bond est tellement formé, tellement fort, et la famille Broccoli a tellement fait de sorte à ce que cette image ne soit pas diluée, qu'il n'y aura à mon avis aucun problème à ce que le prochain acteur ou personne qui va incarner James Bond avait un problème à porter une belle montre Omega.
Vous savez, les paris vont bon train, mais tout le monde dit qu'il y aura un cinquième James Bond avec Daniel Craig.
Oui, ça c'est autre chose, je voulais pas le dire. J'ai entendu ça ce matin aussi. Ça, c'est autre chose.
Alors justement, à l'occasion de ce James Bond, vous sortez effectivement des pièces rares, limitées, alors chez Bollinger et chez Omega. Alors la fameuse, une série limitée. Alors première question, vous allez nous la raconter, comment vous l'avez développée, et est-ce que Daniel Craig a eu son mot à dire sur le développement de cette montre-là, ou
bon,
même pas?
D'abord, dans le film, il porte deux Omega. Les gens vont le voir, il commence avec l'Omega qu'il a porté à la fin de Skyfall, donc c'est ce qui est logique.
La continuité.
C'est une Aquaterra carbon bleu, et après, il reçoit, comme vous avez vu avant, donc du Q, cette nouvelle montre qui était faite là, et à la fin, donc...
Qui a un rôle à la fin.
Voilà. Et qui reprend, au fond, l'autre montre à la fin. Donc, on a parlé avec Sam Mendes, et aussi, pas directement avec Daniel Craig, moi j'ai parlé après avec lui. On avait un rôle à ce que de cette montre dans le film, donc on a fait quelques modifications, ce qu'on fait normalement pas.
Ah, exprès pour le film, vous avez fait des modifications?
Disons, dans le film, la montre a déjà joué quelques rôles, donc de exploser, de couper la glace là avec Pierce Brosnan.
Tout à fait.
The World is Not Enough, etc. Mais ça, c'est la montre, donc c'est limitée qu'on a sorti, 7007
exemplaires.
Donc elle est au fond la même montre que porte Daniel Craig dans le film. C'est la première
c'est
fois qu'on fait ça.
Exactement la même.
Exactement la même. Et il a amené au fond deux choses. Il a amené une lunette bidirectionnelle. Donc c'est plus au fond une montre de plongée, parce qu'une montre de plongée doit aller seulement dans un sens. Et deuxièmement, il y a la petite séquence qui a une petite séquence, ce qu'appellent les connaisseurs de l'horlogerie, lollipop. C'est une petite avec une boule à la fin, qui n'est pas au fond pour donner l'heure à la seconde près, parce qu'elle n'est pas très précise pour ça, parce qu'elle est ronde. Mais ça, c'est quelque chose qui voulait amener donc à cette pièce et que ça a eu un succès extraordinaire. Et au fond, et ça rappelle au fond la montre qu'on a lancée en 57 et dont il tient une pièce de 1968.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez donc effectivement 7007 exemplaires de cette montre. Et souvent, on aime avoir le numéro 1 de la série. Mais là, je crois que tout le monde va s'arracher. On va essayer de s'arracher de 7007e exemplaire.
Donc les deux ont été...
Allez, c'est fini, il n'y en a plus. Ouais, terminé, mais, je m'en doutais. Ouais. Ça va devenir des pièces de collection qui seront cotées, surcotées. C'est aussi ça l'histoire.
Non, et aussi, un petit peu d'anecdote aussi, il a aussi commandé, donc la famille Broccoli et Daniel Craig a donné aussi, pas 700, pas autant que ça, mais à tous les membres de tournage. Et là, on a même fait une opération avec Aston Martin, avec la voiture, où chaque DB9, il y aurait une Omega, donc Aquaterra, qui est vendue avec. Donc, heureusement que là, pour une fois, on a l'air pas très cher à côté d'un Smartphone.
Ah bah oui, bien,
mais, mais c'est très bien.
Chez Bollinger, donc vous le disiez, cuvée spéciale, Jérôme Philippon, un lieu spécial aussi. En ce moment, à Paris, on peut aller au Royal Monceau, oui, par exemple.
Qui est le plus bondien des hôtels parisiens.
bondien des hôtels parisiens pour y déguster ces cuvées. On va peut-être commencer par le must, le coffret. Oui. Le coffret cristal.
Oui. Alors nous avons, à l'occasion au Spectre, on a en fait développé deux éditions limitées. Nous avons d'abord une édition limitée, très limitée, puisque c'est 307 exemplaires. C'est un
3007. Non, 307.
Il vous manque un zéro. Il manque un zéro. Il y a deux zéros dans le prix, en revanche. 6007. Mais bon, c'est 307 exemplaires. C'est un rafraîchissoir en cristal qui est vraiment magnifique, qu'on a développé avec beaucoup de plaisir avec la cristallerie Saint-Louis. Donc une filiale du groupe Hermès qui fait ce qu'il y a de mieux en cristal. Un cristal soufflé-bouche qui nous permet de présenter dans ce rafraîchissoir un magnum de RD 1988. D'ailleurs, qui a été, vous évoquiez ça tout à l'heure, qui a été servi dans le millésime RD 88, c'est un millésime mythique. On est vraiment dans le sommet de ce que fait la Champagne, avec ce qu'on fait de mieux en cristal. Donc un objet exceptionnel, une édition limitée, 307 pour le monde entier. Et puis à côté de ça, on a fait une autre édition limitée. Là, il y a plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un coffret du millésime 2009. Et là, pour la première... Donc, un millésime 2009,
c'est
Bollinger, c'est du millésimé. Là encore, on fait une cuvée très haut de gamme. Ce sont un assemblage de grands crus vinifiés en fût, donc du très, très bon champagne Bollinger, qui, lui, ne sera à l'habillage que de James Bond. C'est-à-dire que nous avons décidé que le millésime 2009 ne serait vendu qu'avec une étiquette James Bond.
Donc,
les amateurs de Bollinger... ils auront une bouteille James Bond.
Sur l'étiquette, c'est carrément Bollinger 007. Oui. Vous partagez pour une fois la valeur.
Alors, souvent, on m'a posé... Parce que c'est assez récent, cette initiative. C'est pour la première fois, avec Skyfall, on avait fait une édition limitée, un champagne, avec une étiquette Bond 007. Et on m'a demandé, et puis là encore, on me demande pourquoi... Est-ce que ça a été difficile d'obtenir le droit de mettre...
d'utiliser ce logo.
Mais en fait, pas du tout. Alors, c'est ça qui est aussi... on parle de cette relation. Au contraire... Et là, en l'occurrence, c'est pas avec Daniel Gregg qu'on parle, c'est avec la famille Broccoli, qui aime aussi le champagne, et qui fait très attention, évidemment, à l'utilisation de l'image, du nom de Bond et de 007. Mais comme on est dans des cuvées haut de gamme, avec une marque de champagne Bollinger, qui est haut de gamme, qui est univers de luxe, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on puisse utiliser, ou imprimer sur la même étiquette, Bollinger et James Bond. Voilà.
On rappelle à consommer avec modération, bien sûr. Pierre-Olivier Marie, c'est vous qui êtes allé sur le tournage de James Bond ?
Oui, début mars à Rome, pour la poursuite en voiture.
Chanceux.
Oui, c'était assez impressionnant. C'est 350 personnes qui sont là pour la production, auxquelles s'ajoutent 250 personnes qui sont juste chargées de bloquer les rues, d'empêcher les accès. Vous imaginez le déploiement de moyens. Et puis la poursuite le long du tir. Donc en pleine nuit, à 1h du matin à Rome, vous aviez l'hélico, vous aviez des bateaux, un déploiement... totalement titanesque pour une scène de quelques secondes. Mais c'est...
Pour l'Aston Martin.
Voilà, pour l'Aston et la Jaguar.
Et la Jaguar,
et la Jaguar du méchant. Voilà.
Mais alors, justement, vous racontez très bien dans le petit moment, ce reportage, donc il y a les voitures, il y a la mise en place. Non, en ce qui concerne la conduite, oui, on a toujours bien évidemment le sentiment que c'est Bond lui-même, en l'occurrence Daniel Craig qui pilote. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on n'est même pas à l'intérieur de la voiture. Parfois, on est à l'extérieur pour piloter.
Au risque de vous décevoir, non, c'est pas Daniel Craig qui conduit. Non, en fait, ils ont ce qu'on appelle des podcars, c'est-à-dire des voitures avec un cascadeur assis sur le toit qui, lui, conduit. Et on a les caméras qui sont installées à l'avant du véhicule, et donc toutes les scènes qu'on voit à l'intérieur, eh bien, en fait, il bouge son volant, mais c'est totalement factice.
C'est-à-dire que chacun des pilotes est quasiment à l'extérieur
pour les scènes intérieures. Et sinon, il y a d'autres scènes, puisqu'en fait, chacune des 8 Aston dont on parlait tout à l'heure a un rôle spécifique. Et donc, pour les autres voitures, donc, il y a des voitures qui sont normales, conduites par des vrais cascadeurs professionnels, d'anciens pilotes de course. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux, en fait, il y avait deux cascadeurs, un ancien champion de rallye britannique et un russe. Et chacun doit normalement doubler Bond et l'autre Inks. Sauf que parfois, au gré des scènes, eh bien, chacun peut, il peut être amené à remplacer l'autre. Et donc, en fait, ce qu'il nous disait, c'est que l'important, c'est peu importe, en fait, qui le conduit, qui le remplace, il faut adapter son style de conduite au personnage. Donc, quand on double Bond, eh bien, on est très efficace, très précis.
Ah ouais,
la voiture ne glisse pas. Et quand on est le méchant, on fait des dérapages, des machins, on fait beaucoup plus de spectacles. Voilà.
Et c'est assez parlant hein, ouais. Dans le dernier spectre, là encore sans trop raconter, effectivement cette course poursuite dans les rues de Rome, on voit course de tête, donc c'est la Bond car, c'est Daniel Craig, c'est léché. Il prend ses virages serrés comme si vraiment, je sais pas, il buvait. Je crois d'ailleurs il est en train de passer un coup de fil. Il a deux doigts de regarder sa montre, son Omega, et de siffler une coupe. Et dans le même temps, effectivement, à côté, c'est pas mal non plus. C'est un bon, une belle voiture. Mais alors lui, c'est toujours un peu... c'est assez parlant. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas conduire ou quoi l'autre? C'est assez hallucinant, je savais pas. Mais vous venez de me raconter quelque chose. On a le sentiment, en le voyant, c'est exactement ça. Je savais pas que ça avait été voulu. Mais ouais, rien n'est laissé, rien n'est innocent chez Jensen.
Tous les secrets, tous les chiffres, toutes les histoires de James Bond, hein, c'est dans l'optimum.
Sur l'automobile, bien évidemment, puisqu'il a eu la chance de nous raconter les coulisses. Sur Omega, c'est un numéro qui n'est pas numéro de James Bond, c'est un numéro bondien. On a voulu vraiment travailler avec Omega. Et puis, Bollinger, je vous parlais de cette verticale. Eh bien, à chaque film, vous avez chacune des bouteilles. À charge, à vous d'aller récupérer ces flacons avec modération pour vous faire une soirée verticale et qui finira peut-être à l'horizontale, parce que franchement, une fois que vous aurez, avec modération, dégusté tout ça, il sera quand même fatigué.
On a encore quelques secondes. Stéphane Urquhart, combien de temps à l'avance on se prépare pour un James Bond? Combien de temps à l'avance vous avez l'info? Sachant que vous avez sorti un modèle spécifique.
Je dirais à peu près deux ans. Les premiers contacts, après on discute bien sûr, surtout à la montre. Bien sûr, on ressent un petit peu le thème, mais pas trop de détails. Mm-hmm. Et c'est la montre. Et ça peut varier beaucoup, hein, ça peut changer beaucoup.
C'est une course contre la montre.
Absolument.
Chez Bollinger, vous avez l'info pareil, deux ans à l'avance?
Oui, deux ans. Sachant qu'on se connaît bien. Donc l'évolution, ce qu'on peut mettre en avant, le développement notamment des éditions limitées, on sait très bien ce qui va plaire et ce que souhaite aussi la famille.
Vous en gardez même de côté
on
les
en garde
aujourd'hui
quelques-uns. Ouais. Dans le Crystal pour... 7, on a le numéro 007, on l'a gardé pour le moment.
Donc, ça vous fait comme des archives.
Voilà, oui, bien sûr.
Bien sûr. Mm-hmm.
Il y a d'autres marques, on avait reçu il n'y a pas très longtemps aussi les stylos
ST Dupont,
par exemple, qui ont bien travaillé avec James Bond et là aussi qui ont fait du marketing. Ouais. Parce que quand même, les marques, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire vivre après, hein, une fois James Bond sorti, toute cette histoire de marketing autour du champagne, autour de l'automobile, autour du stylo, autour
de l'horlogerie. Très sincèrement, je pense que c'est aussi dans le logiciel, dans la constitution du personnage James Bond, qui est quand même un personnage qui a son élégance. Mais souvent, ce marketing développé autour de personnages est assez, somme toute, assez vulgaire et peu réussi. Là, les codes mondiaux sont tels que je crois pour une marque de luxe, que ce soit Omega, Bollinger, mais on peut l'a vu avec ST Dupont, c'est assez facile finalement de les accompagner. Parce que ce sont des marques de luxe pour un personnage qui a du style, qui a de l'allure. Et donc, c'est pareil pour Aston Martin. Je crois que c'est pas tellement compliqué. C'est deux belles rencontres. Je suis pas persuadé que quand vous devez faire du marketing avec Spider-Man, ça soit aussi évident.
Mais
quand j'ai vu certaines marques de luxe s'associer avec des personnages qui sont pas toujours légitimes, eh bien, c'est un pair-pair, un qui-pair-pair. Et le personnage et la marque de luxe. Avec James Bond, c'est un peu plus facile. Faut dire que le monsieur, on a sous le smoking.
Et puis,
tout ce que je voulais dire.
Voilà, ça a des marques qui s'habillent. Merci infiniment, Stéphane Urquhart, président de l'horloger Omega, Jérôme Philippon,
merci.
Président de la maison de champagne Bollinger. Merci infiniment à vous. Merci Pierre-Olivier.
Je ne remercie pas quelqu'un qui a eu la chance d'être sur le tournage.
À l'optimum, le chanceux. Merci beaucoup merci à vous. Allez, vous restez avec nous. Godex Paris continue dans un instant. Vous allez voir, on va encore parler un petit peu de James Bond parce qu'on ne s'en lasse pas.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et Good Lux toujours dans l'esprit de James Bond. Dans un instant, nous partirons pour Londres avec Capucine Gravy. Mais tout de suite, Emmanuel, pour le livre de la semaine. Les livres de la semaine, vous aviez envie de prolonger le plaisir, comme on dit, James Bond encore et toujours.
Encore et toujours, c'est pas moi qui le prolonge, c'est que comme à chaque sortie de nouveau James Bond, la bibliothèque bondienne s'enrichit. Alors, plein d'ouvrages sortant en librairie, j'en ai sélectionné deux. Le premier, celui-ci, il est signé Guillaume Évin. Ça s'appelle James Bond, l'encyclopédie 007. Et en fait, c'est tout simple au niveau de la construction. Il reprend chacun des opus, chacun des 24 films, et il en raconte les coulisses, les secrets, le synopsis, les personnages, et puis bien sûr tout ce qui fait les à côté de James Bond. On vient de le voir durant cette émission, à la fois le placement produit, les anecdotes, c'est ça aussi qu'on aime. C'est que James Bond, au-delà du film, il y a un univers qui se déploie, c'est drôlement bien fichu. Alors, Guillaume Évin, il est bondophile, bondomaniaque, bondocentré. Nous l'avions reçu il y a quelques saisons à l'occasion d'un autre opus. C'est lui qui avait écrit les recettes de Monsieur James Bond aux éditions Agnès Vénot. C'est vous dire, il avait réussi à faire un livre de cuisine. Et là, c'est très réussi.
Ça s'appelle James Bond, l'encyclopédie. C'est chez Hugo Images et donc c'est Guillaume Évin. Et l'autre, plus particulièrement,
alors
sur...
là, aux éditions Chêne EPA, ton coédition EPA, on connaît, vous savez, c'est cette maison d'édition spécialisée dans l'automobile, James Bond Cars. Alors là, c'est signé Frédéric Brun. Frédéric Brun, chroniqueur et journaliste français. Il reprend toutes les automobiles qui ont navigué dans cette, bien sûr, univers James Bond. Alors, Aston Martin, on l'a dit, mais pas seulement. Lotus, BMW, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar, Citroën, Mustang, Thunderbird, à la fois le premier rôle, c'est-à-dire l'Aston Martin, et puis tous les seconds rôles, parce que là encore, de la même manière, c'est pas simplement les personnages qui incarnent James Bond, mais l'univers, ça peut être les hôtels, la géographie, et puis parfois l'automobile. Eh bien, on sait que dans chaque opus, l'automobile, il y a la gentille, il y a la méchante, c'est tout ce que ça nous raconte, avec les secrets de tournage, on l'a vu un peu avec Pierre-Olivier Marie durant cette émission, mais aussi, effectivement, des voitures, et puis alors, c'est un régal d'iconographie. Et puis, au-delà des voitures qui ont existé, il y a toutes les voitures, comme ça, vous allez aller le chercher, le voilà, James Bond Carl, avec bien sûr Sean Connery.
Le nom de l'ouvrage, c'est mieux d'aller voir directement, parce que si vous attendez qu'Emmanuel vous montre quelque chose, c'est James Bond Cars chez Le Chêne EPA pour ce très bel ouvrage.
Et on y apprend que en développant certains modèles de folie, vous savez, des modèles volants, des modèles nautiques, parfois l'aventure James Bond a permis à certaines marques automobiles de se poser des questions qui ensuite ont vu le jour dans des voitures de série. C'est aussi un grand développeur automobile, James Bond.
Allez, Good Lux d'ici et d'ailleurs.
Good Lux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Bonjour Karine.
Mindmoonspots.com, le site qui vous fait voyager, vous offre une expérience à nul autre pareil. Et alors là, comme d'un fait exprès, vous nous emmenez à Londres.
J'ai pas fait exprès, mais je crois que je suis bien tombée.
Ah ben, carrément.
Oui, parce que vous nous l'avez dit en antenne, vous n'êtes pas très bondophile, vous.
Pas tout à fait.
C'est pas
mais
grave.
Bon, je peux vous parler de Londres quand même.
Allons-y.
Londres, donc une ville qui bouge de plus en plus. C'est la sixième ville française, en fait.
Sixième
ville française, tellement il y a de Français.
Ah oui,
ça, je vous apprends pas grand-chose. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. Mais j'ai quand même été, je suis remontée un peu le temps. Londres n'a pas toujours eu de bonne réputation. Au XVIIIe siècle, Montesquieu disait qu'il n'y a rien de si affreux que les rues de Londres, mal propres, le pavé y est si mal entretenu qu'il y est presque impossible d'y aller en carrosse et qu'il faut faire son testament lorsqu'on y va en fiacre.
C'est sympa, ça donne envie déjà.
Ça donne envie. Tout a évidemment changé. C'est tout calme, c'est tout beau. Il y a des rosiers en fleurs. Et puis grâce au péage urbain aménagé en 2005. Évidemment, il y a très peu de circulation. Je vous propose de dormir dans une adresse toute nouvelle qui est un ancien pub. Alors, difficile de croire.
Ça va plaire à Emmanuel. On dort dans un pub.
Alors, c'est marrant parce que les deux adresses dont je vous parle, vraiment, je n'ai pas fait exprès, mais à chaque fois, ce sont d'anciens pubs qui ont été rénovés. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette moue ?
Non, cette moue, parce que justement, on y allait aussi. C'est un exotisme londonien, le pub. Pour nous, Français, c'est très exotique. À Londres et dans les quartiers centraux de Londres, d'ailleurs, il y a tout un mouvement à Londres et une association qui milite pour la défense et la sauvegarde des vrais pubs. Parce qu'ils sont en train de se transformer soit en gastro, c'est-à-dire en bistrot amélioré, soit en hôtel. C'est vrai que c'est pas grave, ça participe de l'énergie d'une ville, mais on aimerait bien qu'ils nous laissent un petit peu, vous savez, la sausage, l'odeur de terre.
Il reste des bacon. Non, mais il en reste encore. C'est vrai qu'il faut un peu pas le figure, mais il en reste encore. Là, je vous emmène entre Victoria Station, enfin à côté de Chelsea, dans un lieu incroyable qui s'appelle Artist Residence et qui est donc un ancien pub qui a été entièrement rénové par deux jeunes trentenaires qui ont flashé sur ce lieu, très désuet, très abîmé, pour en faire un petit bijou. Alors pourquoi Artist Residence ? Enfin, c'est le petit frère ou la petite sœur de deux adresses qui existaient déjà, l'une à Brighton, l'autre en Cornouailles. Et en fait, Artist Residence, ce jeune gars qui s'appelait Justin, a repris un ancien B&B qui appartenait à sa mère à Brighton. Brighton et il n'avait pas les moyens de tenir un peu la boutique. Et en fait, il faisait venir des artistes et les artistes peignaient au mur ou faisaient des toiles et logeaient gratuitement. Et c'est comme ça que Artist Residence est né. Alors, c'est une pratique très courte. Exactement. J'ai arrivé en Normandie, en France, où il y a beaucoup d'écrivains qui fonctionnaient de cette manière-là. Il a repris cette technique. Alors là, on paye quand même sa chambre. Mais c'est un endroit très sympathique parce que à mi-chemin, je dirais, entre les palaces un peu vieillots, désuets, avec un service un peu pompeux, prétentieux, et ces hôtels qui sont trop trendy. On est dans quelque chose de très chaleureux, très naturel. Il a employé le mot friendly. On a fait une interview pendant une bonne heure. Friendly, friendly. Le personnel est friendly. Les chambres sont friendly.
Everybody is friendly.
Et c'est vrai que il y a un côté très prime sautier, très naturel, très sympathique.
C'est petit aussi. C'est quoi? C'est 12 chambres.
C'est petit. C'est 12 chambres. Le food and beverage. Là aussi, friendly and food and beverage. Très important. C'est-à-dire qu'on rentre par ce lieu où on peut bruncher, où il y a des larges cappuccinos, des croque-monsieur au cheddar. On se sent bien. On se sent bien. Il y a même pas besoin de mettre un plaid. On se sent très bien. Alors qu'à Londres, quand même, il peut un peu bruiner.
Artist Residence.
C'est entre Pierre Nico et Victoria. Et je vous le conseille. La petite résidence, c'est d'aller dans les Cotswolds. Les Cotswolds, c'est à 1 heure de Londres. Ah, il aime. Je sens qu'il aime bien ma chronique aujourd'hui. À 1 heure
j'aime
de Londres,
toujours.
À 20 minutes d'Oxford. Les Cotswolds, on peut dire que c'est un peu notre Normandie. Sauf que c'est une Normandie ultra raffinée, mais c'est la deuxième fois que j'y vais. Donc, je vous plante le décor. Les pelouses sont très bien taillées. Les jardins sont prospères. Les maisons sont blotties l'une contre l'autre. On croise des Ferrari, des Porsche dans un village comme Étretat, hein, ou même plus petit. Et puis, surtout, ces Anglais, toujours le comble du raffinement, sont habillés comme s'ils allaient au prix de Diane, alors qu'ils sortent simplement leur poubelle. Voilà, on est à Kingham. Et Kingham, c'est une petite merveille des Cotswolds. Là aussi, un pub qui a été complètement rénové, qui s'appelle le Wild Rabbit. Alors, c'est un esprit un petit peu, peut-être un petit peu trop Cyrillus, un peu trop en bois, un peu trop léché, mais bon, c'est le raffinement à l'anglaise.
So British.
On mange bien des risottos de champignons.
C'est tellement anglaise.
Des soupes au céleri à la truffe.
Et
voilà.
Donc, et puis, on fait du vélo.
Ouais. Évidemment, on roule à gauche et puis bah, s'il pleut, bah, on fait du vélo sous la pluie comme je l'ai fait. Hein,
c'est ça aussi, hein, c'est d'aller en Angleterre. Hein.
Voilà.
C'est le charme so
British. Et alors,
British.
Si vous avez 2 minutes, vous allez à Daylesford. C'est la ferme qui ressemble un peu à Viltin, mais en version encore plus british, encore plus chic. Tout est beau, tout est magnifique. C'est le monde des bisounours, mais c'est une ferme quand même. Daylesford, c'est à 1,5 km de ce Wild Rabbit, ce fameux pub anglais. Et on peut ramener plein de souvenirs. C'est le comble de l'organic food. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet endroit.
Grâce à vous et à mymoonspots.com, on découvre les pubs autrement Capucine Rabbit. Non, vous n'avez plus
champagne. J'ai rien. Si vous n'avez pas de problème en Angleterre, vous pouvez aller sur Normandie qui sera bientôt une et indivisible. Et elle aussi est raffinée. Très raffinée.
Non.
Extrêmement raffinée.
Pour l'Angleterre, c'est quand même simple, non, écoutez, simple comme bonjour.
De Deauville à Trouville de Honfleur.
Mille merci Capucine Rabbit. On retrouve tout ça sur mymoonspots.com. C'est l'heure de l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Elle a une exposition.
Une exposition et une réouverture en même temps. Alors l'exposition, c'est Elliot Erwitt, grand photographe. Il va avoir une exposition qui va commencer dans quelques jours, qui a déjà commencé, pardon, et qui durera jusqu'au mois de décembre. Mais où cette exposition? À la librairie La Une, du côté de la place Saint-Germain-des-Prés. Et là, c'est au-delà de l'exposition que je salue, la réouverture de La Une, puisqu'au printemps dernier, on pensait que ce monument de la librairie germano-crassienne allait totalement disparaître. C'est Yellow Corner, vous savez, ce collectif, cette société qui vend des images, de l'art, un petit peu qu'il démocratise dans le bon sens du terme, et d'abord et surtout de la photographie, qui a racheté La Une, et qui donc a décidé d'en faire toujours une grande librairie, toujours, du côté de Saint-Germain-des-Prés, mais en plus l'animer en galerie-librairie, donc à chaque fois des expositions, ça commence avec un énorme nom de la photographie, encore une fois, Elliot Erwitt, attention, des tirages originaux, alors, il a accompagné tout l'âge d'or américain de l'après-guerre, toutes les stars.
Rue de l'Abbaye, en face de l'église Saint-Germain, j'ai encore quelque chose à dire, donc
formidable,
je prends la parole.
Bravo à La Une d'avoir sauvé sa peau.
C'est comme ça. Et donc, puisqu'on est à Paris, on a un petit peu de temps, ça sera le premier trimestre 2016, mais quand même, on voulait vous l'annoncer, il va y avoir Paris sur scène. Paris sur scène, qu'est-ce que c'est? C'est Off Paris Scène, exactement. Ce sera un hôtel flottant. Eh oui, on avait fait beaucoup de choses sur la scène, mais pas encore l'hôtel flottant. 58 chambres du côté de quai d'Austerlitz, avec piscine et tutti quanti, le lounge, le bar, le solarium, la terrasse estivale de 400 mètres carrés, 4 suites. Et tout ça, on le doit notamment à Elegantia Hotels. Et puis, il a amené beaucoup de gens, de partenaires, hein, City Surfing, Sand Design, groupe Novaxia, parce que tout ça, ça coûte très cher. Mais on va suivre quand même ce Off Paris Seine pour voir ce que ça peut donner du côté de Quai d'Austerlitz. Ouverture prévue début 2016. On vous en reparlera. Et on n'a plus le temps, Emmanuel. Ça vous apprendra. Alors, comme de coutume, vous êtes un petit peu bavard. Mais je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine à la même heure. Allez, restez avec nous. Deuxième partie de Good Luck Paris avec le petit best-of de la semaine.